I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron. On est de retour avec Positron, l'émission qui vous recommande trois trucs cool en 20 minutes. On est un petit peu en retard. J'espérais reprendre en septembre après la pause estivale et finalement on est en octobre. Mais pour compenser, on a un super Positron avec quatre personnes. Donc moi, ça veut dire moi plus trois personnes au lieu de trois. Donc quatre au lieu de trois, ça fait un en plus. Je pense que ça compensera un petit peu. Je suis très heureux de vous retrouver. On a plein de trucs super cool dont on va vous parler. Et pour m'accompagner dans cette rentrée, j'ai d'une part Diraène. Comment ça va, Diraène ?
Bonjour, ça va bien et toi ?
T'es en forme ?
Ouais.
Prête à positronner comme une folle ?
À fond.
Très bien. On a aussi Cassim qui est là depuis, bon, je vais pas dire depuis Lifetal, tu fais plein de choses différentes, mais comment ça va, Cassim ?
Ouais, multicasquette. Oui, ça va très bien. Écoute, je viens de rentrer de Paris ce week-end et donc je suis prêt à enregistrer des jolis podcasts.
Très bien, magnifique. Et une nouvelle venue, Karine, qui est. Alors, est-ce qu'on peut dire, Karine, que t'es une spécialiste télévision intermultinationale ?
On va dire ça.
Ouais, c'est peut-être pas le terme que t'aurais employé toi-même. Tu vas bien ?
On va dire que je suis une encyclopédie sur pattes.
Voilà, une encyclopédie télévisuelle. En fait, Karine, on se connaît depuis très longtemps. On s'était rencontrés sur d'obscurs forums de discussion de séries télé. Il y a combien de temps ? Ça doit faire 10 ans, 15 ans, je sais plus.
Non,
2003 peut-être.
T'as pas tort, 15
ouais.
ans.
Ouais, comme on dit souvent, ça nous rajeunit pas. Mais ouais, on était comme des fous sur des trucs de discussion de séries télé, c'était l'époque de la renaissance, enfin de la naissance de la série télé en fait, de moderne. Et oui, on passait de bons moments à discuter de tout ça. C'était bien marrant. Et donc, vous connaissez le principe de l'émission, hein, Positron. On vous recommande chacun un truc qu'on trouve sympa, cool, que ça soit, enfin, c'est des produits culturels, hein, télévision, films, séries, musique, livres, BD, comics, jeux vidéo, etc., etc. Et donc, si vous vous ennuyez ce week-end, eh ben, grâce à nos recommandations, vous saurez quoi faire et quoi aller découvrir. Je vous propose qu'on se lance immédiatement avec. Je vais commencer. Hein, c'est la tradition. On ne change pas la tradition. Je vais commencer avec une série documentaire dont je pense que certains d'entre vous en ont au moins entendu parler, mais qui est disponible désormais sur Netflix. C'est un petit peu toutes les séries désormais, c'est Netflix. Hein, on en plaisantait l'année dernière. Aujourd'hui, c'est établi. Tout le monde est d'accord. Et la série, c'est une série de la BBC qui s'appelle Planet Earth. Donc la planète Terre, et elle est disponible sur Netflix dans son intégralité, dans une version presque étendue. Il y a eu plein de versions différentes, et c'est une série qui est vraiment incroyable. Elle a peut-être... Vous vous souvenez de quand elle est sortie, Planet Earth ? C'était il y a une quinzaine d'années aussi, je crois. Ça vous dit quelque chose ?
Du tout. La série, oui, quand est-ce qu'elle est sortie ? Pas du tout.
Je crois que c'était il y a une quinzaine d'années. Et je vais vérifier, tiens. Et en fait, le truc, tout le monde a vu... Ah, même pas, c'était 2006, d'accord. C'est un petit peu moins vieux que je ne pensais. Mais c'est un truc que tout le monde a vu, c'est cette image absolument stupéfiante du requin qui sort de qui saute pour attraper un seal. Aidez-moi. Un seal.
Une otarie ou un phoque.
Voilà, merci Karine, il y en a une qui suit et qui saute à 3 mètres de l'eau, quoi, même plus, beaucoup plus. C'était une image saisissante et c'est la première série vraiment qui a pensé, la première série documentaire qui a pensé ces images comme un film de d'immense qualité, quoi. Et elle a pas vieilli du tout, elle est incroyable. Il y a plein de trucs magnifiques dans cette série. Vraiment, si vous, s'il y a une série documentaire sur la nature et la beauté de la planète à voir, je pense que c'est celle-là, c'est la série ultime. Après, vous pouvez, il y en a plein qui sont bien, hein, mais celle-là, c'est le summum de la série documentaire nature, quoi. Pour moi, vraiment, c'est un et c'est un truc presque unique, quoi. Donc, si vous l'avez jamais regardé, c'est un truc que je vous recommande hyper chaleureusement. Ça s'appelle Planet Earth.
C'est narré par Attenborough. C'est pas de son.
Oui.
C'est d'accord.
Oui, c'est David Attenborough qui est le narrateur de toutes ces séries documentaires et il a une voix effectivement qui est très particulière. Mais c'est marrant parce que ah oui, c'est ça. En fait, je voyais sur Wikipédia, enfin sur Google, narré par Sigourney Weaver. Et peut-être que, et en fait, c'est la version américaine qui est narrée par Sigourney Weaver. Et la version UK est narrée par David Attenborough. Et pourquoi, enfin j'aime bien Sigourney Weaver, mais pourquoi remplacer David Attenborough qui a une voix tellement chaleureuse et c'est vraiment le type anglais, tu t'imagines au coin du feu avec sa pipe et qui te raconte l'histoire de tout ça, c'est saisissant. Donc,
moi j'ai juste une question, il est dispo sur le Netflix français
Je crois bien, oui. Non?
Je sais pas.
Parce que moi, en fait, je l'ai revu quand j'étais en Finlande. Et je crois qu'il est dispo sur le Netflix français. S'il n'est pas sur Netflix, il est dispo en DVD. De toute façon, il y a une version d'une heure et demie, je crois, ou peut-être la série complète. C'est vieux, hein, comme on disait. Donc, ça a 10 ans. Donc, c'est dispo de toute façon. Sur Netflix français, je crois.
Je ne trouve pas.
Il n'est peut-être pas sur Netflix français. Bon, vous devriez sortir un DVD.
Sur Netflix français, il y a plein de docus animaliers qui sont très, très chouettes, mais je ne crois pas qu'il y ait Planet Earth.
Bon, écoutez, alors il faudra sortir et l'acheter en média physique, du coup.
Peut-être que la BBC France l'aura peut-être en replay.
Ah, c'est peut-être. Oui, c'est possible. C'est pas bête, ouais. Effectivement, parce peut-être qu'ils le gardent.
Ouais. Normalement, c'est France 5 qui les diffuse, les programmes d'Attenborough. Donc, logiquement, ça devrait. C'est peut-être un truc avec soit France, soit Plus, soit la BBC. Hein.
Mais Patrick, par contre.
Ouais,
je voyais dans les notes que tu avais noté flix.tv, donc c'est peut-être.
Flix.tv, c'est complètement autre chose. Donc pour finir sur Planet Earth, c'est un truc, je suis sûr que vous pourrez le trouver, vous démerderez, et il est très bien. L'autre truc dont je voulais parler, c'est Flix.tv, F-L-E-E-X.tv. Et en fait, c'est un truc, je pouvais pas en faire une recommandation, parce que c'est pas vraiment une recommandation, mais c'est un service qui vous permet d'apprendre l'anglais grâce aux vidéos Netflix ou autres. Il y a des trucs sur YouTube, il y a des trucs sur TED.com, etc., qui sont sous-titrés. Enfin, c'est un service qui va vous jouer ces vidéos avec des sous-titres. Et le truc qui est magique, c'est que vous pouvez choisir la difficulté, enfin votre niveau, et il va traduire en français ou en anglais en fonction de la difficulté du texte. Donc ça veut dire que si c'est très difficile, il va l'écrire dans votre langue. Si c'est un peu plus facile, pour vous aider à comprendre, il va l'écrire dans la langue que vous essayez d'apprendre, en l'occurrence l'anglais. Et du coup, c'est hyper malin, parce que vous pouvez, en regardant vos séries préférées, enfin ils ont pas tout, hein, mais les séries vous aimez, et vous apprendre l'anglais. Alors c'est un service qui est payant, mais il y a vraiment, enfin il faut vraiment parler anglais aujourd'hui, je crois que c'est hyper important, et ça c'est un moyen hyper sympa de le faire. Donc je vous le recommande, c'est Corben qui l'avait testé, c'est par ça que j'en ai entendu parler, et c'est pas mal du tout. Donc vous avez une période d'essai gratuite et puis après c'est payant, mais jetez-y un coup d'œil, comme on parle beaucoup de Netflix justement ici, flix.tv, F-L-E-E-X.tv, et donc Planet Earth, comme je le disais. Voilà pour moi. Diraen, de quoi nous parles-tu?
Moi, je vais vous parler d'un comics d'anticipation qui s'appelle en français Y, le dernier homme.
D'anticipation, c'est angoissant quand même. C'est de la, on va dire, de la science-fiction, pas de l'anticipation.
C'est parce qu'il est dans la catégorie anticipation d'Urban Comics, me semble-t-il. D'accord. Okay. Mais oui, c'est de la science-fiction. C'est l'auteur.
Vous allez voir. Elle va expliquer de quoi il s'agit. Oui. Vas-y, continue.
L'auteur, c'est Brian K. Vaughan, pardon. Donc c'est un comics qui a bénéficié de deux éditions. Une première édition chez Panini Comics où il y avait 10 tomes qui est sorti en 2004. Et là, en 2012, Urban a ressorti une version condensée et brochée. Donc chaque tome maintenant réunit deux des tomes originaux de la version Panini. Et le pitch est hyper joyeux. En 2002, on suit la vie de Yorick, qui est un jeune homme un peu léger et inconséquent, qui, au moment où il demande sa petite amie en fiançailles, à l'exact même moment, tous les hommes de la planète meurent. C'est gay. Donc, les hommes, c'est 48% de la population mondiale, et ils meurent tous, quel que soit leur âge, en quelques secondes, d'une façon totalement inexpliquée. Donc, le pitch, c'est que le seul homme survivant, c'est Yorick, d'où le titre. Yorick, ça s'écrit avec un Y, donc Y. Et l'histoire de ce jeune homme, ça va être... En fait, l'histoire en elle-même, c'est lui, qu'est-ce qu'il va faire. Mais ce qui est super intéressant, c'est surtout à quoi ça ressemble un monde où il n'y a plus d'hommes, en fait. Voilà. Et ça pose des questions très intéressantes parce que donc en 2002, l'auteur a fait pas mal de recherches et il nous dit que si tous les hommes devaient mourir, ça voudrait dire que 495 des 500 chefs d'entreprise les plus riches disparaîtraient de la planète, 99% des propriétaires terriens, mais aussi 99% des pilotes d'avions, des conducteurs de camions, des capitaines de navires, des mécaniciens, des électriciens, des ouvriers. C'est aussi 85% des représentants gouvernementaux, pardon, et surtout 100% des représentants des principales religions monothéistes. Donc la question, c'est à quoi ça ressemble à un monde sans hommes, comment est-ce que les femmes se débrouillent, et puis évidemment, comme c'est un comics, ce garçon se retrouve accompagné par deux femmes, l'agent 355, dont la mission est de protéger forcément le dernier homme sur Terre et de le ramener à Washington pour qu'on essaye de comprendre en fait pourquoi est-ce que lui n'est pas mort et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour sauver l'espèce masculine.
Humaine, même à ce niveau, je pense qu'on peut dire.
Oui, évidemment. Et puis le Dr. Mann qui est là, qui elle essaye de comprendre le virus. Et puis après, il y a d'autres forces en puissance qui vont s'additionner à tout ça. Et au milieu, il y a Yorick qui veut juste retrouver sa meuf. Mais oui, en effet, un monde sans hommes, ça veut dire que c'est un monde qui est voué à l'extinction parce que pas d'hommes, pas d'enfants.
C'est un moi je l'avais lu peut-être à peu près quand il est sorti, je me souviens plus. De mon souvenir, c'est un peu post-apocalyptique quoi, c'est limite dans la mode zombie, il y a pas de zombies, mais c'est un peu la société s'effondre, il y a des milices armées, c'est ce genre-là, non? Je me souviens bien.
À travers les différents tomes, ils vont être amenés à traverser une bonne partie des États-Unis. Et le postulat de l'auteur est assez impressionnant parce que, en effet, quand on voit que, enfin, quand il n'y a plus personne pour transporter les biens, pour faire tourner les grosses, le commerce, etc. Oui, forcément, la société a tendance à revenir à une organisation grégaire et les femmes se retrouvent à se constituer en petits comités pour se réapproprier le monde, en fait.
Moi, j'avais beaucoup aimé et pour info, Vaughan, c'est l'auteur de Saga, qui est une autre série que j'avais recommandée, qui est dessinée par une femme. Je sais pas si en anglais, ça s'appelle Why the Last Man.
En anglais, c'est Why.
Est-ce que c'est une femme qui dessine aussi ou pas?
Tout à fait. Elle s'appelle Pia quelque chose.
D'accord.
Oui, c'est une femme qui dessine.
Et franchement, et Why the Last Man et Saga sont des séries particulières. Saga encore plus différent que ce dont on a l'habitude. Et je me souviens que ça m'avait vraiment marqué. Je me souviens pas exactement des thèmes et de l'évolution de Why, mais c'était vraiment un truc intéressant, quoi. Donc, je le recommanderais aussi, du coup.
Deux recommandations, d'un coup. Et la dessinatrice s'appelle Pia Guerra.
Pia
Guerra. G-U-E-2-R-A.
Super.
Guerra, je ne sais pas comment ça se prononce.
D'accord. Super. Donc, ça s'appelle Y, le dernier homme. Et on vous le recommande chaleureusement aussi. Kassim, alors, j'ai regardé un petit peu avant ce dont tu nous parles. Je vais te laisser le présenter. Vas-y.
Oui, je vais vous présenter Les Chevaliers du Zodiac, la série abrégée. Alors, il s'agit d'une petite série créée sur YouTube, vraiment pour, enfin, à titre parodique, à titre humoristique, qui reprend, en fait, qui retrace la saga du sanctuaire des Chevaliers du Zodiac. Donc, c'était les héros qui traversaient les 12 maisons du Zodiac. Et donc, il y a 12 épisodes, un épisode par maison de 10 minutes environ. Et un épisode final un peu plus long de 20 minutes. Donc c'est une série qui est assez courte. Et donc en fait c'est une parodie des Chevaliers du Zodiac et même une parodie plus généralement des shonen de la génération
aussi. Donc les shonen, les mangas pour jeunes garçons.
Voilà, comme type Naruto, Olive et Tom, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre?
Dragon Ball, enfin tout ça.
Dragon Ball, voilà. Et aussi une parodie de tout ce qui était le Club Dorothée avec la génération de doublage fait par AB Productions, tout cet univers en fait, même du dessin animé en France en fait, plus que le dessin animé au Japon. Donc moi c'est une série vraiment que j'ai découvert il y a quelques années et que je recommande chaudement à toute personne qui, alors j'ai mis pour fan, mais alors c'est pour moi c'est compréhensible à peu près par tout le monde, mais ce sera particulièrement drôle pour n'importe qui ayant déjà vu un animé japonais dans sa vie, et encore plus pour ceux qui ont donc vécu cette période donc du Club Dorothée, des Chevaliers du Zodiac, de Dragon Ball, etc.
Ouais, je crois que c'est vraiment pour ces gens-là que ça va être le plus drôle.
Oui,
c'est
oui.
Il faut expliquer pour ceux qui ne savent pas, enfin pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait, il y a les images, c'est un montage abrégé de la série en images, enfin, c'est les images de la série elle-même, et il rajoute des voix par-dessus.
Voilà,
l'auteur.
Il redouble, en fait, tout.
Alors, c'est un peu genre la classe américaine, quoi.
Un petit peu. Bah justement, alors, sur les épisodes précédents, j'avais eu un souci technique et le son n'était pas passé. Là, on va voir, je vais essayer de vous le jouer. Vous allez... Normalement, ça devrait aller, donc on va voir.
Danser, mais il ne retrouvera jamais la vue.
Alors, un peu
non plus. Cet imbécile s'est crevé les yeux, vous vous attendiez à quoi?
Nous allons au sanctuaire.
Quelqu'un veut du poulet?
Oui.
Nous voilà au sanctuaire.
Et le grand pape vous attend, mademoiselle Saori.
Moi aussi, je vous attendais.
Sérieux? Vieille fripouille, alors toujours aveugle?
Oui.
Non.
Voilà. C'est complètement idiot et c'est voilà, très très français.
On a l'impression que c'est.
Pardon, Karine.
On a l'impression que c'est doublé dans les années 60 quand même.
C'est ça.
Ouais.
Bah on dirait les doublages français de Ken le Survivant, quoi.
Un petit peu.
Exactement.
C'est les moments où il déconnait dans Ken le Survivant, ouais, c'est ça.
Mais il s'en manque énormément. Bon, là, c'est un extrait de l'épisode 1. Évidemment, au fur et à mesure des épisodes, la personne qui s'en chargeait, qui est Stat Alchemist, s'améliore énormément. Les derniers épisodes sont vraiment excellents, quoi. Avec plusieurs comiques de répétition. Bah, il se moque aussi de beaucoup de choses. Alors, il se moque donc du côté shonen, c'est-à-dire que c'est toujours l'amitié, le courage et l'amitié au-delà de tout qui permet de vaincre l'adversaire. Il se moque du caractère androgyne de Sean qui est chevalier d'Andromède, des Chevaliers de Zodiac, et du caractère androgyne de pas mal de personnages de la série. Voilà, il se moque un peu des poncifs de la série, le fait qu'elle va se répéter énormément, des problèmes d'animation, des problèmes de scénario et d'adaptation du manga avec des personnages qui disparaissent, on sait pas pourquoi, ou des personnages qui changent complètement d'apparence entre le manga et la série animée. Voilà, des problèmes de doublage, d'autres choses comme ça, il va se moquer énormément.
Je crois que c'est vraiment drôle pour les gens qui connaissent. Hein. Si vous connaissez pas, ça va.
Oui,
c'est marrant, mais enfin vraiment pour les gens qui connaissent, ça va rappeler des choses, quoi. Je pense. Mais
voilà. Mais je pense que voilà, n'importe qui. Je pense que c'est que ça passe, même si on a. Je veux dire, ce que je voulais dire, c'était que même si tu n'as pas connu forcément les Chevaliers du Zodiac, je pense que tu peux quand même apprécier la série sans avoir jamais vu Les Chevaliers du Zodiac, en ayant vu d'autres animés français, enfin traduits en français à l'époque.
Et moi, j'ai une question. Est-ce que si t'es ultra fan des Chevaliers du Zodiac, tu peux aimer quand même ou tu vas être absolument dégoûté de la façon dont ça traite
C'est encore plus drôle. Enfin, moi, je trouve que c'est encore plus drôle, en tout cas. Et je l'ai fait regarder à mon grand frère, parce que je suis pas totalement de la génération Club Dorothée. Moi, j'étais vraiment petit quand c'était la Club Dorothée. Par contre, mon grand frère était en plein dedans et lui, enfin, il a adoré. Enfin, c'était mon grand frère, c'est celui qui collectionnait les Chevaliers du Zodiac quand il était petit, les statuettes, etc., les figurines.
Ok.
Voilà. D'accord.
Il parle d'ailleurs, il parle du merchandising aussi dans la série.
D'accord. Bon, donc voilà, ça s'appelle Les Chevaliers du Zodiac, virgule, la série abrégée, c'est sur YouTube et on vous le recommande aussi. Et enfin, Karine, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ?
Alors, moi, je vais parler de deux podcasts qui traitent des scénaristes. Un qui s'appelle Writer's Panel et le deuxième qui s'appelle Children of Tendu. L'un est tenu par Ben Blacker, qui est scénariste aux États-Unis, et l'autre est tenu par José Molina et Javier Grillo-Marxoix. Désolée pour la prononciation du deuxième nom, c'est un peu compliqué. Alors, le premier podcast est fait par un scénariste qui, au début, posait des questions que tout le monde pouvait se poser sur le travail d'un scénariste pour un débutant, pour celui qui voulait écrire. Tandis que le deuxième s'intéresse à toute la production d'une série du côté des scénaristes, puisque aux États-Unis, les scénaristes sont quand même la pierre angulaire de tout ce qui est produit. Et l'un comme l'autre, ça nous apprend plein de trucs. Children of Tendu, ça fait un peu peur parce que les podcasts sont très très longs. Ils dépassent souvent l'heure. Donc quand on voit la liste des podcasts, on se dit non mais c'est pas possible, j'ai pas le temps à écouter. Et en fait ça passe très très vite. Et ils ont plein d'anecdotes sur leur travail parce qu'il y en a. Les deux ont été showrunners, mais ils n'ont pas été que showrunners. Ils font toutes les positions possibles et inimaginables dans une série.
Est-ce que c'est des showrunners de séries qu'on connaît ou est-ce que c'est des trucs un peu plus obscurs?
Alors, le deuxième, Javier, il a créé The Middleman. Je ne sais pas si vous connaissez la série, qui est passée sur ABC Family il y a une dizaine d'années, qui est une parodie des BD, en fait. Un héros avec des trucs complètement cons, avec un robot comme secrétaire et une assistante. Non, mais c'est très, très drôle. C'est typiquement dans la même veine que Joss Whedon, par exemple.
D'accord.
Il a travaillé dernièrement sur Elix.
D'accord. Et donc, c'est des séries, enfin, c'est des podcasts où... Le premier, tu dis, c'est... T'as écrit dans les notes Nerdist Writers.
Oui, en fait... Ouais, en fait, c'est Nerdist. En fait, il était sous l'égide du Nerdist, qui est une entreprise de Chris Hardwick aux États-Unis, qui est super connue maintenant. Mais maintenant, il s'appelle plus Nerdist, il s'appelle The Writer's Panel, parce que c'est toujours chez Nerdist, mais ils ont enlevé l'appellation Nerdist.
D'accord.
Donc, voilà, parce que c'est tout ce qui est geek. Et l'animateur s'appelle Ben Blacker, il a travaillé sur Supernatural il y a 4 ou 5 ans. Et pour en avoir entendu parler, ça s'est assez mal passé. Pas que pour lui, mais parce qu'apparemment ça se passe mal. C'est pas l'endroit le plus sympathique pour des scénaristes.
Et du coup, c'est des podcasts qui sont pour apprendre vraiment si on s'intéresse à la manière dont sont produites les séries et au niveau de l'écriture. Ou est-ce que c'est même si ça nous intéresse pas spécialement, mais on s'intéresse à la télé, il y a tellement d'anecdotes que ça peut quand même plaire.
Alors, celui de Ben Blacker, le Writer's Panel, il invite des showrunners de toutes les séries et de films, et pas que ça. Il invite aussi des scénaristes de BD, de comics. Donc, il y a deux podcasts différents. Il y a un podcast sur les comics et un podcast sur la série. Mais il invite régulièrement des auteurs de films. Et en fait, ça t'apprend plein de trucs, mais en fait, ça t'apprend plein de trucs sur une série, quoi. Sur la série sur laquelle ils peuvent travailler. Par exemple, il a fait toute une collection sur Jane the Virgin, où il a invité tout le monde, c'est-à-dire la scénariste, mais les trois acteurs principaux.
D'accord.
Donc, il y avait quatre podcasts différents, par exemple, pour celui-là.
Ok, donc peut-être aller fouiller dedans et voir s'il y a une série que vous aimez qui a été traitée et peut-être que ça vous intéressera même alors, si vous n'êtes pas spécialement. Oui, pardon.
Oui, alors c'est, d'abord c'est en anglais, donc il faut être anglophone.
Ouais, c'est vrai.
et Children of Tendu, faut savoir que les deux ont travaillé pour des grands mecs de la série qui ont travaillé sur les, par exemple sur Star Trek, qui ont showrunné Star Trek. Donc, ils ont plein d'anecdotes, par exemple, sur Star Trek. Ils ont fait des panels, ils ont fait deux podcasts spéciaux où ils ont fait venir leurs mentors. Donc, Ira Steven Burr pour l'un, et je sais plus, un autre qui travaille beaucoup sur les séries pour illustrateurs à l'heure actuelle. Ils racontent plein de trucs, pas que la façon de travailler, pas la façon, pas que de dire voilà ce que fait un producteur consultant, mais vraiment tout ce qu'on peut apprendre sur ce qui peut se passer dans une série. C'est-à-dire la production d'une série. Et ça, c'est super intéressant. Quand on aime les séries, évidemment.
Oui, bien sûr. Donc, c'est quand même effectivement pour fans, comme tu disais. Mais si vous aimez les séries, peut-être l'un de ces deux... Si on devait en écouter qu'un, tu conseillerais Writer's Panel ou Children of Tendu?
Alors, moi, je pencherais plus pour Writer's Panel parce qu'il invite aussi des gens du cinéma. Donc, par exemple, il va faire venir Guillermo del Toro et il va parler principalement de cinéma et pas de télévision.
D'accord.
Par exemple.
Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Karine, pour ces recommandations. Et ça nous amène à la fin de l'émission. Je vous rappelle ce dont on vous a parlé. C'est une émission un petit peu bien paquée, on va dire. Il y a Planet Earth et Flix.tv. Y, le dernier homme, Les Chevaliers du Zodiac, la série abrégée, et enfin Nerdist Writers, enfin Writers Panel, et Children of Tendu, qui sont réservés aux anglophones, on va dire. Vous aurez de toute façon toutes les notes dans les notes de l'émission. Écoutez, avant qu'on se sépare, je vais vous demander où on peut vous retrouver sur l'internet, si on veut vous retrouver sur internet, dire à Edna.
Partout, Facebook, Twitter, d'Irène, partout. Et puis surtout, j'ai lancé il y a quelques mois maintenant un podcast dédié aux parents geeks qui s'appelle ABCD Podcast, où on vous donne plein de mauvais conseils pour mal élever vos enfants de geeks.
ça, je pense que c'est un bon programme. Kassim.
Oui, d'ailleurs, ABCD, je pense que je l'aurais conseillé si Diren n'avait pas été parmi nous, je pense que ça aurait été dans les recommandations.
C'est vrai, je confirme, il m'en a parlé avant, Cassim m'a dit, mais oui, mais elle est là, donc elle va en parler, c'est pas la peine. Très bien.
Et puis c'est bien pour eux-mêmes quand on n'est pas parents, c'est tout à fait, c'est très agréable à écouter et très drôle, entendre vos péripéties en se moquant gentiment de vous.
Merci.
Pour parler de moi un peu, on peut me retrouver sur lifetile.fr un jeudi sur deux pour parler de l'actualité de Microsoft, et sinon on me retrouve sur frandroid.com et numerama.com pour parler
Merci.
De l'actualité.
Beaucoup. Kassim, tu as parlé de toi et maintenant à Karine de parler d'elle. Est-ce que tu as un petit coin d'internet à toi que tu voudrais recommander?
Alors, moi, je suis la rédactrice en chef d'Anus Série. Donc, c'est un peu compliqué quand je le prononce parce que tout le monde pense à Anus, mais voilà. Donc, je vais l'appeler. C'est A-2-N-U-S-E-R-I-E-S. Et c'est sur Facebook et sur Twitter et sur le web, puisque on est l'une des plus grosses encyclopédies en français sur les fictions télévisées.
Donc c'est une sorte d'annuaire des séries, en fait.
Ouais, on est l'équivalent de TV Rage ou TV Maze ou IMDb, mais pour les séries.
Ok.
On aurait presque pu penser que le nom était choisi parce que c'est un annuaire de séries, hein.
Exactement. Comment t'as deviné?
Je sais pas. J'ai eu un éclair de génie tout à coup. C'est ce qu'a dit Irène qui m'a fait penser. Bon, très bien. Merci beaucoup, Karine. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et Facebook. Vous retrouvez les notes de l'émission sur frenchspin.fr et d'autres émissions également sur ce site. Et nous, on sera de retour pour le deuxième épisode de la session dans 15 jours avec de nouvelles recommandations. Ciao à tous.
Salut.
Ciao. We'll be right back.
Don't walk.